Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour et rebonjour à tous et à toutes. Et on se retrouve dans l'émission le 9, et oui. Et petite question à vous, Québécois, Québécoises. Actuellement, si vous ne le saviez pas, votre gouvernement a changé. Et la question que tout le monde se pose, qui est Marc Carny. Aujourd'hui, Christine va nous y répondre pendant sa chronique. Donc Christine, je t'en prie, qui est Marc Carny? Vraiment?
Oui, en fait, habituellement, moi qui se préoccupe plus de ce qui se passe au sud de la frontière, je vais rester un petit peu au nord pour cette fois-ci. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau visage de la politique canadienne, Marc Carney, qui est un banquier de renom, un expert en économie. Il est devenu...
C'est Macron.
sans trop me lancer dans la politique française, j'espère que non. Donc, presque un peu sorti de nulle part, presque du jour au lendemain, il est devenu premier ministre du Canada. Donc, qui est-il? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'on va aller en élection en 2025? Je vais essayer de répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Donc, par rapport à Marc Carney, qui est-il? Donc, il est né le 16 mars 1965 à Fort Smith, en Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest. Il a grandi en Alberta dans une famille d'enseignants et il a fait des études en économie à Harvard et ensuite à Oxford, où il a obtenu une maîtrise et un doctorat. Donc, quand même pas piquer des verres là, comme personne. Il a quand même une carrière impressionnante en finance. Donc, il a passé 13 ans chez Goldman Sachs, où il a géré notamment la crise financière russe de 1998. De 2008 à 2013, il a été gouverneur de la Banque du Canada, où il a aidé le pays à surmonter la crise financière, donc pour ceux qui se souviennent de 2008. Ensuite, de 2013 à 2020, il a été le premier non-britannique à diriger la Banque d'Angleterre, où il a géré les turbulences du Brexit. Donc, ça, c'est un petit peu plus près dans nos années. Et depuis 2020, là, il est envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l'action climatique et il joue un rôle clé. Il a joué un rôle clé à la COP26. Et en parallèle, il est devenu un acteur majeur de la finance verte, donc à travers l'Alliance financière de Glasgow pour la carboneutralité. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a un penchant là, pour l'environnement là, dans ses politiques précédentes. Mais en 2025, il a vraiment changé de cap. Après la démission de Justin Trudeau, il se lance officiellement en politique, donc quelque chose qui est complètement nouveau pour lui. Donc, c'est un premier ministre gestionnaire, donc versus ce qu'on a connu plutôt, là, qui était des premiers ministres qui venaient de la politique, qui avaient déjà fait de la politique, qui étaient déjà ministres ou qui avaient déjà été élus. Lui, c'est quelqu'un là, qui arrive avec une approche vraiment pragmatique, qui est centrée sur l'économie et la stabilité. Son programme repose sur trois piliers centrales. Donc, premièrement, une réforme budgétaire stricte. Donc, il veut séparer les dépenses courantes des investissements et il veut équilibrer le budget en 3 ans. Donc, quand même une grosse tâche. Il veut encourager l'investissement privé pour relancer la croissance et la productivité. Donc, on va voir si ça va fonctionner du côté du Canada ou est-ce qu'on est déjà un petit peu réticent des fois là, de l'investissement privé. Il veut aussi, comme deuxième point, une fiscalité réajustée. Donc, il veut une réduction des impôts pour la classe moyenne et une suppression de la hausse d'impôts sur le gain en capital. Donc, encore là, c'est quelqu'un qui vient là, du milieu des affaires et de la finance. Donc, peut-être qu'il y a eu vent de ses employés là, que les réductions d'impôts sur la classe moyenne seraient une bonne chose pour le Canada. Et troisièmement, il y a une politique environnementale plus pragmatique. Donc, fin de la taxe carbone. Donc, il coupe un peu l'herbe sous le pied de Pierre Poilievre, excusez-moi, avec la fin de la taxe carbone. Et il veut remplacer cette taxe par un programme d'incitatif vert. Et il veut aussi faire des investissements massifs dans les technologies propres pour concilier croissance économique et transition énergétique. Donc, il veut rationaliser le gouvernement. Son cabinet, il passe de 37 ministres qu'il y avait sous Trudeau à 24 ministres. Donc, ça signifie là, qu'il y a certains ministères qui ont disparu, notamment ceux dédiés aux femmes, égalité des genres, jeunesse, santé mentale, dépendance, ainsi que diversité, inclusion et invalidité. Par contre, un petit caveat là-dessus, il faut noter qu'il y a certains de ces ministères là, qui n'avaient pas forcément leur propre département ou des portefeuilles spécifiques, sauf celui femmes, égalité et genre, comme par exemple santé mentale tombait sous le ministère de la Santé. Donc, c'est pas nécessairement que les budgets ont été enlevés à ces ministères-là, c'est vraiment juste que ça a été remanié différemment. Donc, présentement, évidemment, là, il y a un contexte un peu explosif entre Trump et Poilievre. Donc, on voyait vraiment là, une montée un peu de la droite, évidemment, avec Trump. On voyait Poilievre qui était aussi en montée, là, et les conservateurs qui étaient en montée assez fulgurante au Canada. Depuis l'annonce de la démission de Trudeau, on a vu que les libéraux ont repris un peu du poil de la bête. Depuis la sermentation de Trump aussi, on a eu vraiment là, la vision de ce qu'une deuxième présidence de Trump pouvait donner. Donc, ça nous a vraiment donné ça nous donnait froid dans le dos, disons, au Canada. Donc, on a vu une remontée des libéraux. Et depuis que Mark Carney a été mis comme premier, comme leader, en fait, du Parti libéral, on a vraiment une montée qui continue là, du côté de Carney et des libéraux. Donc, lui, il prend le pouvoir vraiment dans un moment critique. Donc, du côté de Donald Trump, comme je mentionnais, là, ses politiques protectionnistes, il menace les relations économiques avec le Canada. Donc, Carney, qui considère Trump comme la plus grande crise de notre époque, il devra trouver un équilibre entre opposition ferme et maintien des échanges commerciaux, parce qu'on ne faut pas se le cacher, les États-Unis, c'est quand même notre plus gros partenaire d'échange. Mm-hmm. Et Pierre Poilievre, en fait, comme tu disais, le chef du Parti conservateur, c'est un adversaire qui est redoutable. Il est populaire, charismatique, certains diraient. Mm-hmm. Il est excellent communicateur aussi, certains diraient ça. Et il dénonce Carney comme étant un technocrate déconnecté des réalités des Canadiens. Et son slogan, Carney, c'est la continuité d'un système qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est un slogan qui va vraiment fonctionner, parce que c'est un peu long et des mots qui ne marchent pas tout ensemble, mais bon. Les élections, techniquement, sont en octobre 2025. Je ne sais pas si on... En fait, il y a des très bonnes chances qu'on ait des élections plus rapidement que ça, donc on va garder un œil là-dessus. Puis ça va vraiment parler là, de l'économie mondiale. Ça va être vraiment un politicien de carrière versus un homme d'affaires. Donc, on va vraiment voir le clash de ce côté-là. Les défis de Mark Carney pour l'instant, là, surtout avec lui qui a été assermenté le 14. Donc, il y a un manque d'expérience politique. Donc, il est habitué aux décisions plus techniques, mais la politique, faire campagne, négocier l'opposition, gérer les crises en direct, mm-hmm. tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il a fait ou qu'on l'a vu faire beaucoup. Donc, il y a peut-être de l'expérience là-dedans dans le domaine des affaires, mais on l'a pas vu faire.
Après, en soi, les gens se disent peut-être pas assez de bois. Pardon, désolé. Peut-être qu'on a aussi envie, sur un plan politique, de se dire qu'on a face à nous un gouvernement qui se base essentiellement sur des gens qui ont un passif de businessman. Peut-être qu'il serait intelligent de mettre face à eux quelqu'un qui ait le même langage. Mais le problème, c'est que la politique n'est pas un business. On parle quand même de la vie de concitoyens. Donc,
puis on voit aussi
pour moi,
c'est
un pari risqué, ouais, c'est ça. Et pour moi, on a déjà vu ce que ça fait. Et en général, c'est surtout les personnes de classe moyenne ou petite classe qui en pâtissent le plus dans ce cas type de contexte. Donc ce choix, je le comprends pas. Je pense qu'on a déjà eu pas mal d'expressions, mais en tout cas à voir s'il aura les épaules et nous présentera peut-être une manière différente d'aborder la politique tout en ayant ces mêmes expériences.
Oui, ben c'est ça. En fait, c'est un peu un de ses défis aussi, c'est la communication qui est sobre un peu de son côté. Donc, contrairement à Trudeau, là, qui était très charismatique, qui était très people person, là, qui avait la façon de parler. En fait, il est dans le théâtre, okay. Donc c'est sûr, ça vient un peu tout seul. Carney, lui, il a un style plus analytique, plus point par point, un peu
cartésien.
Plus business, exactement. Ouais. Puis ça pourrait peut-être écouter quelques points là, avec Poilievre. Aussi, le défi du Québec, donc sa maîtrise du français est imparfaite. Donc ça peut jouer un peu là, sur l'élection du côté du
ouais,
Québec. Par
ça,
contre, Québec est très réticent à Poilievre, donc mm-hmm. c'est un peu 4,30 sous pour une tasse.
D'après moi, on va avoir beaucoup de votes de bloc.
Oui, c'est ça, exactement, mais ce qui pourrait un peu faire mal aussi.
Ouais.
Donc, un peu pour clore ça, en fait, le Carney, c'est un premier ministre de transition où ça va peut-être être un leader à long terme, on ne sait pas encore, parce que pour l'instant, mm-hmm. c'est notre premier ministre, il a été assermenté. Donc, techniquement, juste 7 mois avant l'élection prochaine, à moins qu'il déclenche une élection plus rapidement, ce qui est très possible. Donc, on a deux options, soit le succès, il impose vraiment sa vision économique, il rassure les Canadiens, puis il remporte les élections, mm-hmm. et deviendra alors le premier ministre là, durable, peut-être un parti minoritaire, c'est ce que je pense. Ou encore, il va avoir un échec, donc il va avoir peine à convaincre les Canadiens. Poilievre surfe sur le mécontentement. Populaire et les conservateurs prennent le pouvoir. Puis dans ce cas-là, ben, Carney pourrait rapidement être remplacé à la tête du Parti libéral. Donc, Mark Carney, est-ce que vous pensez qu'il saura prouver sa gestion de crise? Est-ce qu'il va pouvoir transformer son leadership politique à long terme? Puis est-ce qu'il va réussir à s'imposer face à Poilievre et à Trump? Parce que...
Moi, je dirais, on voit l'intelligence et surtout la polyvalence et l'assiduité de quelqu'un dans les situations à risque.
Oui.
Actuellement, on en est dans une. Donc, avant de lancer, est-ce que il va juste lancer les élections en prévention ou peut-être va-t-il commencer peut-être personnellement à agir dans le cadre du sujet? On verra ce qu'il en est pour la suite. Peut-être que, moi, je pense que pour lui, la meilleure le meilleur contexte serait qu'il s'emploie déjà à avoir des négociations avec Trump, ce qui pourrait quand même apporter, je pense, un peu plus de panache sur sa candidature à venir dans le cadre d'une élection future.
Trump qui ne l'a pas félicité d'ailleurs pour son élection.
C'est pour ça que c'est peut-être le moment de s'imposer un peu plus à l'échelle internationale, ce qui est actuellement le sujet de la majeure partie des débats qu'on a, à voir si son positionnement peut être intéressant pour le reste. Est-ce que vous avez d'autres avis par hasard autour de la table sur cette question ?
Il va déclencher les élections, moi je pense. Ouais.
Mais je pense que c'est peut-être même pas lui qui va les déclencher. Ouais, en fait, là, ils vont peut-être, c'est peut-être les partis qui étaient associés avec lui, donc le NPD puis le Bloc, qui vont juste lui enlever sa confiance, dans le fond, puis ça va déclencher.
Ouais, ben, tu sais, il va être obligé de retrouver ça, la confiance de la Chambre, puis ça va être au travers d'élections, là, c'est clair. Là. Puis on va en parler à la CFA, justement. Il va y avoir une couverture, justement, de cette. Course à la tête du fédéral, ben, du Canada. Et ben, là, on attend juste des dates.
Oui, exactement, on attend des dates. On va avoir un bureau d'élection à la journée d'élection. On va être là pour vous donner toute l'information là, par rapport, par comté, aux élections fédérales. Puis on va avoir aussi les entrevues préalablement là, avec des professeurs de l'école de politique qui vont nous donner un peu plus de détails là, sur le portrait politique du Canada.
En tout cas, vis-à-vis de ça, on se laisse après une courte pause pub, et oui les gars. Vous inquiétez pas, nos pubs, elles envoient la patate plus que moi à la fin d'émission. Et on se retrouvera sur d'autres sujets. En tout cas, les gars, actuellement, on a parlé de Marc Carney, on a parlé de l'Université de Columbia. On va s'attaquer aussi à d'autres sujets comme les frontières de la médecine, comme le M23, comme la politique de déportation de Trump et ses conséquences, comme des personnes disparues, comme aussi la Saint-Patrick. Tout ça, ça se passe ce matin, donc il ne faut pas le manquer. Et les pubs, vous inquiétez pas, on se dit que c'est ennuyant, mais chez nous, elles sont concoctées avec amour.